Je vous invite à prier. Merci Seigneur d'être avec nous. Et alors que nous nous souvenons de la naissance de Jésus, nous nous souvenons aussi de ce que son nom signifie, Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es avec nous, Seigneur, parmi nous. Nous te remercions de nous guider ainsi. Nous te remercions de le faire aussi par ta parole que tu nous donnes. Et j'aimerais te prier que, pendant ce moment, nous puissions te voir, mieux te comprendre, avancer avec toi. Je te prie au nom de Jésus, la parole incarnée. Amen. J'aimerais, pour cette prédication, partir d'un texte qui se trouve dans Luc, Luc au chapitre 2. Luc au chapitre 2, c'est là où se trouve la nativité, mais ce n'est pas de ce texte dont j'aimerais partir ce matin. J'aimerais lire la suite. On a lu la semaine dernière la naissance de Jésus, l'ange qui apparaît aux bergers et les bergers qui vont à Bethléem. Et j'aimerais lire à partir du verset 21, donc Luc 2, à partir du verset 21. Voici ce qui est écrit. Quand 8 jours furent accomplis, Jésus fut circoncis et on lui donna le nom de Jésus, celui que l'ange avait indiqué avant sa conception. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, ils l'emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, « Tout mâle né le premier de sa mère sera consacré au Seigneur. » Et pour offrir en sacrifice une paire de tourterelles ou 2 jeunes colombes, selon ce qui est dit dans la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient l'enfant pour accomplir à son égard ce qui est en usage d'après la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. » Car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple, Israël. Son père et sa mère s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Celui-là, celui-ci, et est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera, de sorte que soient révélés les raisonnements de beaucoup. » Jusqu'ici notre lecture. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, ce que vous pensez de cette scène. Je ne sais pas si vous la connaissiez. Moi, je trouve cette scène incroyable. Quand je me projette un peu dans ce qui s'est passé, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dû penser, Joseph et Marie, qui arrivent là? Ils sont là avec un premier enfant. Et dans ces situations-là, on n'est pas très rassuré, quoi. On manque d'expérience. Ça fait 8 jours qu'ils l'ont entre les mains. Ils arrivent au temple parce que c'est écrit dans la loi, quoi. Quand on a un enfant, que c'est le premier-né, à 8 jours, on va le présenter au temple pour le consacrer au Seigneur. Donc, Ils sont là, peut-être que à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait, à pas trop savoir où ils vont, j'imagine. Et puis il y a cet homme qui vient vers eux, ce type excité qui vient leur parler, qui s'extasie devant l'enfant, qui le prend dans ses bras. Je suis pas sûr qu'ils s'attendaient à ça. Je suis pas sûr qu'ils étaient très à l'aise. C'est une scène assez incroyable. En même temps, je pense que ce n'est pas la première fois qu'ils sont surpris. Autour de cette naissance, il y a eu tellement de choses, la façon dont elle a été annoncée, les anges qu'ils ont vus, les bergers qu'ils ont vus débarquer comme ça, dans l'étable où ils étaient réfugiés pour donner naissance. Il s'en est passé des choses extraordinaires autour de cette naissance. Et on nous dit juste avant, dans le verset qu'on n'a pas lu en fait, juste avant ce que j'ai commencé, que Marie retenait toutes ces choses et qu'elle y réfléchissait. Toutes ces choses merveilleuses qui sont passées autour, elle s'en est souvenue. Et des fois, quand on a une grande mission, comme c'était le cas pour Marie et pour Joseph, de s'occuper du Fils de Dieu qui leur a été confié. Quand on a une grande mission comme ça, on a besoin d'encouragement. Et je crois qu'ils l'ont eu à travers ces signes extraordinaires qui se sont manifestés et qui étaient complètement inattendus. Et donc là, au temple, alors qu'ils y sont avec Jésus pour accomplir les rites habituels pour un premier-né, il y a cet homme qui vient vers eux, Siméon. Siméon. On trouve beaucoup d'anonymes dans la Bible, mais lui, Siméon, on connaît son nom. Il devait avoir une petite réputation, il devait être connu là où il était, à Jérusalem, connu parce que un régulier du temple, et puis quelqu'un, on savait pourquoi il était là. Quelqu'un dont on savait qu'il était juste et pieux, c'est ce qui est dit dans le texte que nous avons lu, pour le présenter, quelqu'un de juste et pieux. Juste et pieux, qu'est-ce que ça veut dire? Un juste, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui est déclaré juste par Dieu, en qui Dieu trouve son plaisir, que Dieu a choisi, que Dieu approuve. Et Siméon était de cela. Choisi par Dieu, il avait grâce aux yeux de Dieu et on nous dit qu'il était pieux, c'est-à-dire qu'il passait beaucoup de temps avec Dieu, beaucoup de temps à prier, à méditer la parole. Il avait une proximité avec Dieu. Et cette proximité, elle est concrète. Ce n'est pas juste du temps passé comme ça, elle est concrète parce qu'on nous dit que s'il est venu au temple ce matin-là, c'est poussé par l'Esprit. Poussé par cette proximité qui lui permet de ressentir là où Dieu veut qu'il soit et de s'y rendre, d'obéir à ses convictions qu'il reçoit de Dieu. Un homme juste et pieux, donc. On nous dit également que l'Esprit Saint était sur lui, qu'il reposait sur lui. Et je pense que ce que veut dire l'auteur, c'est que il avait des révélations particulière. Il lui était révélé des choses, on en a la preuve, le signe dans ce texte. Il lui a été révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur, avant d'avoir vu le Messie, avant d'avoir vu celui que Dieu avait promis, celui qu'il avait promis pour remettre les choses droites, remettre les choses d'aplomb. C'est difficile de parler de cette promesse, elle est tellement complexe, tellement foisonnante, et je suis reconnaissante de la sélection de textes qu'a choisi Anne-Marie qui nous permettent de voir qui était annoncé, celui qui va remettre les choses droites. Mais il n'y a pas que ça, donc l'Esprit Saint l'avait averti qu'il ne verrait pas la mort avant de voir le Messie. L'Esprit Saint lui a dit aussi très concrètement de se rendre au temple ce jour-là, mais l'Esprit Saint lui révèle des choses concernant ce bébé qu'il tient entre les mains. Et ça, je trouve ça extraordinaire, parce que nous, on lit l'Évangile et on sait où ça va. Ça nous parle de Jésus, on voit toute sa vie, et c'est comme une introduction à l'Évangile que de parler de sa naissance. Mais lui, Siméon, ce qu'il a tenu dans les mains, c'est un petit bébé de 8 jours. Et je ne pense pas que c'était évident de voir ce qui allait se passer. Et quand il le voit, il ne voit pas uniquement un bébé mignon, né dans des circonstances un peu extraordinaires. Naître dans une crèche comme ça, c'est bucolique. Il voit le Messie, le Christ du Seigneur, l'envoyé du Seigneur, celui qui doit venir. Et il a cette parole qu'il donne aux parents et en particulier à Marie, au verset 34. « Celui-ci est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, comme un signe qui provoquera la contradiction. » Il voit que cet homme annoncé, ce Messie de Dieu, ce n'est pas juste quelqu'un qui va régler des problèmes, c'est quelqu'un qui divise. Quelqu'un autour de qui les gens vont se diviser, pour ou contre. Et il n'y aura pas de milieu. C'est quelqu'un qui vient révéler qui nous sommes, révéler les inégalités, qui vient lever, abaisser et qui divise. Et quand Siméon voit ce bébé, il reconnaît en lui celui qui doit venir et il place en lui son espérance. Je trouve ça impressionnant. Moi qui crois sur la base du témoignage biblique, sur la vision de toute l'œuvre de Jésus, lui, il croit sur la promesse et un bébé de 8 jours. En lisant ce récit, il y a 2 points qui attirent particulièrement mon attention et qui, je trouve, devraient nous interpeller dans la façon dont nous vivons notre foi également. Le premier point, c'est l'attente. Je suis surpris de ce que l'attente, de cette attente qui est au cœur de la vie de Siméon. On nous dit, il attendait la consolation pour Israël. Et il était connu pour ça. Siméon, c'est le gars qui attend. Il attendait la consolation pour Israël. Israël avait donc besoin d'être consolé. Oui, Israël avait besoin d'être consolé. Israël, cette famille qui était devenue un peuple et qui a été choisie par Dieu, dont Dieu s'est occupé et à qui Dieu avait donné un rôle spécial, mais qui, après s'être détourné, s'est retrouvé occupé dans le pays qui lui avait été donné, dispersé dans tout un tas de territoires autour de la Méditerranée, qui a perdu sa personnalité, qui a perdu sa particularité. Israël, c'était le temple, là où Dieu habitait, mais même Jérusalem a été occupée. Et le temple a perdu de cette aura. Cet Israël qui ressent l'abandon de Dieu a besoin d'être consolé. Et Dieu promet cette consolation. On a beaucoup lu le prophète Ésaïe. Au chapitre 61, Dieu promet la consolation pour son peuple. Le souffle du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, proclamer pour le Seigneur une année de faveur et pour notre Dieu un jour de vengeance, consoler tous ceux qui sont dans le deuil, rétablir les gens de Sion qui sont dans le deuil, mettre sur leur tête une parure splendide au lieu de la cendre, une huile de gaieté au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, afin qu'on les appelle térébintes de la justice, plantation du Seigneur pour montrer sa splendeur. Siméon vit dans l'attente de cette consolation. Et cette attente est profonde et structure sa vie, comme on peut le voir dans la déclaration qu'il fait. Maintenant, Maître, tu laisses ton esclave s'en aller en paix selon ta parole. Autrement dit, maintenant, c'est bon, je peux mourir. À ce moment-là, sa vie a atteint son but. Sa vie a trouvé son sens. Il a accompli sa raison de vivre. Ça me pose une question. Et nous, qu'est-ce que nous attendons ? On attend tous des choses. Par exemple, on peut attendre la fin de la prédication, qui dure un peu. Je pense que les enfants qui sont à côté attendent demain et l'ouverture des cadeaux. Peut-être parmi nous, il y en a-t-il aussi qui attendent ça avec impatience. On peut attendre que notre équipe de sport favorite remporte un championnat, une Coupe d'Europe, que sais-je. On peut attendre une promotion au travail. On peut attendre la retraite avec impatience. On peut attendre un conjoint. On peut attendre toutes sortes de choses. Et je crois que ce n'est pas mal d'attendre toutes ces choses tant qu'on sait qu'elles ne sont pas au même niveau, qu'on sait les prioriser, ne pas leur mettre la même valeur. Lui, Siméon, la chose la plus importante qu'il attend, c'est le salut pour Israël, la confirmation de ce que Dieu agit, de ce qu'il accomplit, sa promesse. À tel point que quand c'est accompli, il n'attend plus rien de sa vie. Et nous, ne devrions-nous pas nous inspirer également de son comportement, de son attente ? Parce que nous attendons également, et nous attendons le retour de Jésus-Christ qui nous a promis qu'il reviendrait. Nous attendons le jour où son règne sera visible pour tous, ce jour où le diable sera vaincu, où le péché sera éradiqué, qu'il sera enlevé de notre monde. Le jour où toute la création, pas seulement les hommes, mais la création entière, sera réconciliée à son Créateur. Être chrétien, c'est être dans l'attente. C'est être dans l'insatisfaction. L'attente du retour de Jésus. L'attente de l'accomplissement complet des promesses. Nous avons lu tout à l'heure pendant le temps de louange un extrait du chapitre 42 du prophète Ésaïe qui dit du serviteur de Jésus qui doit venir qu'il imposera loyalement l'équité et il ne vacillera pas, il ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait installé l'équité sur la terre. Voilà ce que nous attendons. Que son royaume, qui a commencé, soit visible et répandu sur toute la terre. Comme je le disais, être chrétien, c'est être dans l'attente. Et nous devrions nous en souvenir de quand nous pensons à cette histoire de Siméon. La deuxième chose qui me frappe dans ce récit, j'en ai déjà un peu parlé, c'est la fin de cette attente. Et je suis émerveillé par la foi de Siméon, qui a reconnu la fin de l'attente dans ce petit bébé de 8 jours qu'il avait devant lui. Alors, certes, le Saint-Esprit lui a indiqué, lui a dit, c'est lui qui est là. Mais je me rends compte dans mon expérience que ce n'est pas toujours facile de croire ce que dit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit révèle des choses, donne des assurances. Mais nous avons encore à croire ce qu'il nous dit, à le faire nôtre, à nous dire « Oui Seigneur, je reconnais ta voix, j'arrête de chercher, tu m'as apporté la réponse que j'attendais. » Lui, voilà, c'est ça qu'il avait, un bébé et une révélation miraculeuse. Et par la foi, il a saisi cette révélation, il en a fait une conviction, il a placé sa foi dans cette conviction pour trouver le repos. Et nous, est-ce que nous reconnaissons Jésus? Est-ce que en Jésus, nous reconnaissons le Sauveur du monde? Nous n'avons pas devant nous cet enfant. Peut-être que certains aimeraient pouvoir voir de leurs yeux et que pensent que ça aiderait à croire. Nous, nous avons la révélation, la parole de Dieu, complète. L'histoire complète de la vie de Jésus, et puis le témoignage des disciples, des apôtres qui ont expliqué, qui ont montré comment il est l'accomplissement de toutes choses. Est-ce que dans ce témoignage que nous avons, nous reconnaissons qu'il est le Messie et que nous pouvons mettre toute notre espérance en lui? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre à votre place. C'est une question que je vous laisse. Une question que je vous laisse avec la première. Les deux questions sont liées. Et alors que le temps de l'Avent touche à la fin, ce temps où nous sommes dans l'attente de Noël, dans l'attente de cette fête, et ce temps qui prend fin demain, souvenons-nous qu'il y a une attente qui subsiste, une attente plus grande, une attente de justice, d'équité pour le monde entier. Et que cette attente, elle trouve sa réponse en Jésus. Nous pouvons l'attendre avec confiance et faire de cette attente le sommet de notre vie, la chose la plus importante. Il est celui qui était promis. Celui qui était promis depuis le début, depuis la Genèse, depuis le péché, ce temps où l'homme a été séparé de Dieu. Promis comme celui qui écrasera le serpent, le péché, et nous réconciliera avec Dieu, et dont le règne n'aura pas de fin. Je vous invite à vous saisir de cette parole, de cette promesse, à vous en servir pour illuminer votre Noël, les fêtes que vous pouvez avoir et pour illuminer toute votre vie. Joyeux Noël.